bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royan Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages d'une dizaine de minutes de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette chronique Osons l'intime où nous retrouvons chaque semaine le collectif Féminin Naissance Royan Vercors à travers plusieurs de ses membres et notamment Stéphanie que l'on retrouve aujourd'hui. Bonjour Stéphanie.
Salut Anouchka.
Stéphanie qui est accompagnante psychocorporelle et également doula et qui nous propose aujourd'hui le deuxième épisode d'une chronique qui porte sur la pression parentale. Donc on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est un vaste sujet. L'idée de Stéphanie donc c'était de nous faire prendre conscience quelque part de la pression qu'on peut se mettre en tant que parent vis-à-vis de nos enfants. Et sans vous rajouter encore donc des injonctions pour vous dire comment faire pour prendre du recul ou pour se mettre moins de pression, Stéphanie souhaitait simplement pointer du doigt en fait que peut-être parfois on se met trop de pression et que finalement ce serait peut-être l'occasion de prendre un peu du recul, voilà, de sortir la tête du guidon dans cette période particulière.
Ben, merci de cette invitation et bienvenue à tous et à toutes dans cette chronique donc, qui parle de parentalité, de pression qu'on va se mettre souvent en tant que parent, peut-être encore plus pour notre premier. C'est une pression très intime qui touche notre sphère familiale, mais on voit aussi que c'est un sujet finalement très politique et collectif. Entre le désir de ne pas reproduire ce que nous avons vécu et celui d'inventer autre chose, souvent à l'opposé, nous pouvons nous sentir pris dans des courants opposés en tant que parents. Pour nous aider aujourd'hui, je vous propose de nous relier à une ressource du vivant. C'est celle de la fluidité, comme une vague qui va et qui vient. Une vague qui décristallise les positionnements et les représentations trop figées. Une vague fluide aussi qui sait bercer nos peurs, qui sait en prendre soin pour les inviter à lâcher. Aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur dans nos ressentis. On va aller regarder ce qui se cache parfois derrière nos fantasmes de parentalité idéale. Et je vais vous parler d'un phénomène qu'on peut vivre en tant que parent. C'est le parent fragmenté. Alors, le fantasme qui est finalement un fantasme qui devrait apaiser nos peurs et nos blessures, c'est le fantasme qui est là finalement pour essayer de nous protéger, mais dans lequel on va souvent être piégé. Nos attentes parentales aujourd'hui ne sortent pas de nulle part. Je l'ai développé dans la chronique la semaine dernière, elles viennent des valeurs et des connaissances, notamment scientifiques, qui évoluent. Elles naissent aussi d'un fantasme. Si je fais tout parfaitement, alors moi et mon enfant serons à l'abri. Et ça, c'est très humain en fait comme association. C'est une tentative d'apaisement de nos peurs et de nos blessures. Mais ce fantasme en réalité, est-ce qu'il ne renforce pas la pression que nous nous mettons et nous fragmente? Je m'explique. Je vais vous parler du concept de la rivière de la vie. C'est un concept qui vient de la somatic experiencing, c'est l'approche de Peter Levine pour comprendre comment le corps réagit et se rétablit après un traumatisme. Donc imaginons notre vie comme une rivière. Cette rivière, c'est notre courant vital, notre énergie vitale qui coule. Donc notre élan naturel, notre joie, notre curiosité, notre capacité à être en relation, mais aussi notre capacité à nous adapter et à faire face à des défis, à des stress, et puis ensuite repartir. Quand tout va bien, notre rivière coule librement, même avec des remous. On peut traverser les tempêtes, rencontrer des obstacles, des embâcles dans la rivière. L'eau peut monter, dépasser les embâcles et les obstacles, et le courant retrouve son équilibre. Par exemple, dans le cas de la parentalité, on est fatigué, notre enfant nous sollicite beaucoup, on s'agace, et si on a la chance d'avoir un chien, comme moi par exemple, ben là notre chien vient vers nous, nous demande une petite caresse, pose sa tête contre nous, et moi par exemple, ça, eh ben, ça me fait respirer, ça me fait du bien, et puis d'un coup je peux redevenir disponible pour mon enfant. En fait, là il s'est passé une co-régulation. La rivière a connu une vague et elle a retrouvé son cours. C'est comme ça la régulation naturelle du vivant en fait. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a du trauma? Un traumatisme, c'est ce qui se passe dans le système nerveux d'une personne qui vit un événement qui dépasse sa capacité à s'adapter et à métaboliser cet événement. Ce sont nos barrières de sécurité qui sont dépassées, qui sont franchies. Notre système ne peut pas faire face. Nous vivons ce que notre système associe à un grand danger. Dans ces circonstances, notre corps est stoppé net et ne peut pas terminer sa réponse naturelle de fuite, de lutte, et rentre en figement. La conséquence est que l'énergie d'adaptation reste coincée dans notre corps. J'insiste, c'est dans notre corps et pas dans notre tête. Alors si on reprend l'image de la rivière, un événement arrive, dépasse ma fenêtre de tolérance dans laquelle je suis en sécurité, l'eau monte pour faire face à ce défi, mais ça ne suffit pas cette fois. Alors l'eau monte tellement que ça crée une brèche dans les berges de ma rivière. Et l'eau commence à couler à travers cette brèche et c'est mon énergie vitale qui est en train de fuir en fait, qui est en train d'être drainée, pompée par le trauma. C'est là qu'apparaît mon vortex traumatique. Vous savez, ces vortex, c'est ces petits tourbillons d'eau. Et là, il y a un petit tourbillon qui se forme à l'extérieur de la rivière, de l'autre côté de la berge. C'est ce vortex qui emmène mon énergie vitale, qui me draine. Il s'active, ce vortex traumatique, à chaque fois qu'une situation ensuite va venir réveiller cette mémoire passée. Dans ma vie de parent, ça peut par exemple être mon enfant qui pleure très fort. D'un coup, je me sens paniquée, peut-être de manière un peu démesurée. Ça réactive quelque chose. Je n'y arriverai pas. Je suis toute seule. C'est complètement démesuré. Je m'agite, je me tends. Et d'un coup, je me sens complètement abattue, vidée de mon énergie. C'est comme si je pouvais plus bouger. Je sais pas si ça vous est arrivé, ce genre de choses. Et ça, c'est mon vortex traumatique. Je suis en train de partir dans mon vortex traumatique. Souvent, ça ramène des sensations anciennes. Des sensations de lourdeur, de pesanteur, de panique, d'être enfermé. Des sensations d'impuissance. Ça peut être de la honte aussi. Ça peut être de la peur réactivée. Mais quand le vortex traumatique se crée en dehors de la berge, en même temps, se crée, magie du vivant, un vortex à l'intérieur de la rivière. C'est le vortex et le contre-vortex. C'est les deux forces qui ne peuvent pas cohabiter l'une sans l'autre, en fait. C'est un peu comme dans Star Wars, en fait. C'est exactement pareil. Donc, on appelle ça le vortex interne ou le vortex ressource. Ce contre-vortex contient toutes les forces et les ressources opposées au vortex traumatique. Dans lequel, le vortex traumatique, dans lequel il a fallu se couper finalement de nos ressources pour traverser les événements. Alors, je m'explique. Je prends l'exemple du chat et de la souris. La souris court poursuivie par le chat, elle a son trou en vue, mais n'est pas assez rapide. Elle se fait prendre entre les griffes du chat. La souris a ses barrières de défense complètement dépassées parce qu'elle va mourir. Elle vit un moment extrêmement choquant et son système nerveux la fige. À ce moment-là, si j'extrapole, elle vit peut-être de l'impuissance. Si elle pouvait penser, cette pauvre souris, elle pourrait se dire « je suis complètement nulle, j'ai même pas réussi à arriver jusqu'à mon trou ». La souris est dans son vortex traumatique. Et ça va encore plus affaiblir son tonus musculaire finalement. Et c'est très brillant de la part de sa physiologie. Car si elle était connectée à sa puissance, à son courage à ce moment-là, bah elle se lèverait, elle ferait les gros bras devant le chat, elle se battrait avec lui comme une tigresse et pour le coup elle se ferait vraiment croquer. La physiologie estime à cet instant qu'elle a plus de chances de survie ou au pire de minimiser ses souffrances en étant dans un état de figement et de dissociation. Ici, le contre-vortex de la souris, c'est sa force, son courage, son énergie d'action. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, toutes ces forces, dans la souris. Mais ça veut dire que la souris n'y a pas accès parce que son système nerveux les rend inaccessibles. Bah, c'est exactement ce qui se passe en tant que parent.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, d'où la notion de parent fragmenté. C'est-à-dire que, en fait, face à quelque chose qui nous met trop en difficulté, on va tout d'un coup, comme une souris, se figer pour minimiser notre souffrance à ce moment-là.
Exactement. Donc, si on revient, comme tu dis, à notre exemple de la parentalité, le contre-vortex, ça va être la connexion, le soutien, la ressource du lien, ça qui devient inaccessible, y compris avec mon enfant. Parce que si j'étais soutenue, peut-être que justement, je me sentirais pas autant dépassée. Si j'étais pas seule, alors que mon enfant pleure, peut-être que je me sentirais pas autant dépassée. Dans le contre-vortex, il peut avoir aussi le mouvement, la capacité de bouger. Il peut y avoir aussi juste la sécurité de sentir mon corps comme contenant. Si c'était accessible tout ça, ça me permettrait de m'engager dans un cercle vertueux pour réparer au besoin calmement auprès de mon enfant sans culpabiliser et avec bienveillance pour moi d'abord et pour mon enfant aussi.
Mais alors on ne peut pas vraiment y accéder à ce contre-vortex quand on est trop bloqué quelque part dans ces traumas.
Exactement, c'est ça notre drame en fait un peu humain, c'est qu'en fait on est bloqué là-dedans, et non seulement on est bloqué là-dedans, mais en plus du coup ça va amener plein de croyances sur nous, et c'est de ça que naît aussi beaucoup notre culpabilité. Donc en comprenant ce phénomène-là, j'espère déjà vous inviter à lever un peu de cette culpabilité, parce qu'en fait c'est vraiment notre système autonome qui fait ça. Autonome, ça veut dire qu'il ne nous donne pas le choix, qu'on n'a vraiment pas la possibilité de nous raisonner à ce moment-là. Par contre, on a d'autres pistes. Donc, vous l'avez compris, quand on est figé, on n'a pas accès à notre contre-vortex. Donc, dans notre exemple de parent, le parent a du mal à se mettre en lien, a du mal à sentir de la sécurité et à se mettre en mouvement avec son enfant. Dans ce cas, on entre dans un monde qui est fragmenté. D'un côté, tout ce qui concerne notre vortex traumatique, auquel parfois on s'identifie complètement, comme notre souris qui se croit nulle. De l'autre côté, tout ce qui concerne le contre-vortex, qui devient enfin une forme d'idéal inatteignable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on va parler bien sûr là de la parentalité bienveillante qui peut devenir cet idéal. Si on reste dans cette fragmentation, on reste dans le trauma, on l'entretient, voire on l'augmente. C'est comme la souris qui commence à diviniser une souris toute puissante, super souris, qui pourrait arriver à casser la figure à tous les chats, qui se sent d'autant plus mal et d'autant plus nulle, elle, de ne pas avoir atteint son trou. En faisant ça, elle ne rencontre pas vraiment ni sa force réelle, ni son impuissance réelle, ses vraies sensations, parce qu'elle est dissociée, fragmentée. Alors ça ne fait qu'entretenir finalement ce figement de dissociation et cette dissociation. Alors comment on sort de ce trauma ? Eh bien c'est en faisant se rencontrer les deux vortex, par petits bouts, le vortex traumatique et les ressources, pour amener de la sécurité tranquillement et en libérant dans le corps les énergies bloquées. Vous voyez où je veux en venir sûrement. Notre contre-vortex de la parentalité, ça ressemble beaucoup à la parentalité positive et bienveillante, si celle-ci ne rencontre pas le ressenti réel des parents, leurs réelles difficultés, leurs limites, leurs pressions. Et donc, dans ces cas-là, ce type de parentalité peut devenir, en tout cas, entretenir, voire renforcer leur trauma. Un parent qui tente d'incarner uniquement le contre-vortex, le super-parent, c'est un parent qui renforce son figement et sa fragmentation en fait, qui renforce son impuissance, qui peut nier ses limites, qui va s'épuiser, qui va culpabiliser, qui perd confiance en lui et qui n'ose plus chercher de l'aide et qui se déconnecte aussi de son enfant au moment où il a le plus besoin de lui. Le trauma cristallise ce mouvement naturel de rencontre entre le bon, le vivant, les ressources d'un côté et les blessures, les peurs, ce qui nous fait mal de l'autre, sans que ça puisse dialoguer. Cela mène à des visions très manichéennes. Alors aujourd'hui, la société et nous-mêmes pouvons adhérer sans le vouloir à ces visions un peu manichéennes en étant pris au piège d'incarner ce parent idéal. On retrouve cette fragmentation à toutes les échelles en fait. Donc en soi, je suis la bonne mère, la mauvaise mère. Moi, avec mes enfants, je parlais de la maman dragon et de la maman renard. La maman dragon, c'était quand je criais, que je perdais confiance, que j'étais dans mon impuissance et que je culpabilisais après avoir crié sur mes enfants. Et puis la maman renard, c'était celle qui incarnait vraiment la patience, la bienveillance, l'ajustement. Dans le couple aussi, on peut voir ces visions manichéennes qui s'opposent. C'est moi qui comprends, qui connais mieux les besoins de nos enfants, parce que moi, je suis le parent conscient, je suis le parent qui me suis formée à la parentalité bienveillante. Puis toi, tu gâches tout ce que je suis en train de mettre en place avec les enfants, là. Souvent, je vois des parents dans mon travail, et dans leur couple, il y a le parent conscient, qui devient le parent pare-choc, qui va amortir et protéger son enfant, y compris contre l'autre parent, qui lui va incarner finalement le vortex traumatique. L'autre parent dans ce système est souvent jugé, enfermé dans le vortex traumatique. Le premier parent voit souvent ses manquements, ses défauts, plutôt que ses ressources. On se retrouve dans une forme d'opposition qui va enfermer chacun, alors que chacun est plus que le parent idéal ou le parent défaillant, bien sûr. On voit aussi cette opposition manichéenne dans les familles, peut-être des fois entre générations. Avant, on savait éduquer les enfants, toi tu lis trop de livres. Ça peut arriver avec les grands-parents, avec les oncles, les tantes. C'est souvent effectivement un choc entre générations, entre manières d'éduquer. Les anciens qui comprennent parfois pas cette nouvelle manière d'aborder les enfants. Mais on voit aussi, on retrouve aussi cette vision manichéenne dans les institutions. On oppose la bonne éducation versus la mauvaise. J'entends parfois parler des professionnels qui décrivent les parents qui, décidément, n'y arrivent pas, par exemple, en les observant faire. Les parents sont jugés à la crèche, à l'école, au parc, et cette vision manichéenne n'est pas le signe que nous sommes mauvais. Elle est le signe d'un trauma plutôt collectif, je dirais. Elle est plutôt une forme de dissociation collective. Vous l'aurez compris, la clé ici, c'est la rencontre. Pour cela, on a besoin de notre ressource, celle de la fluidité, celle de cette vague qui décristallise les identités, les représentations trop figées. Alors je vous propose de terminer avec ça, de prendre le temps ensemble de nous connecter à cette vague qui va et qui vient, peut-être qui vient rencontrer ce que vous pensez de vous en tant que parent, ce que vous pensez des autres en tant que parent. Une vague aussi fluide qui sait remettre du mouvement dans nos peurs avec douceur, en étant contenu. Une vague qui nous invite à lâcher un peu ce qu'on croit être vrai. Une vague qui nous aide à faire du lien entre nos difficultés, nos impuissances, nos incapacités avec nos ressources, qui aide à sentir que rien n'est figé et définitif dans la relation à notre enfant, que lui aussi a ses propres ressources, que rien n'est figé dans notre couple non plus, qu'on peut reconnaître les difficultés ensemble de chacun, sans compétition, et sentir qu'on est dans le même bateau finalement.
Et une vague qui peut également peut-être aussi permettre de venir s'adapter à la spécificité de notre enfant finalement, à l'individualité de cet enfant qui ne va pas forcément correspondre à tout ce qu'on a pu apprendre justement dans les livres ou de manière très théorique finalement.
Ouais, très juste, ouais. Ouais, c'est une belle ouverture, on pourrait faire une autre chronique là-dessus.
Je sais que moi ça a été le cas en tout cas avec mon fils, j'ai eu l'impression de lire beaucoup de choses sur le sujet comme sans doute beaucoup de parents et ensuite de déconstruire tout plein de choses que j'avais appris sur le papier pour m'adapter en fait à la personnalité de mon fils qui correspondait pas forcément à ce que j'avais vu en théorie quelque part.
Super.
Voilà, si je peux ajouter ce petit témoignage à la fin de ta super chronique, Stéphanie, sur la pression parentale. Une chronique en deux parties que vous pouvez retrouver donc sur radioroyon.fr et qui parlait aujourd'hui du concept de parents fragmentés. Stéphanie, je le rappelle, donc tu es accompagnante psychocorporelle et doula et tu fais partie donc du collectif féminin Naissance Royan-Vercors. Merci beaucoup pour cette chronique.
Au revoir, à bientôt.
À bientôt. Pour de prochaines chroniques Osons l'intime, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Claire et à Céline du collectif Féminin Naissance Royan-Vercors à l'adresse mail suivante féminin-naissance@gmail.com.